8h10 en temps universel.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient et ce matin, nous attendons vos réactions sur le rôle de la radio en situation d'urgence. Demain sera célébré comme tous les 13 février, la journée mondiale de la radio. RFI est d'ailleurs l'un des principaux partenaires de l'UNESCO qui organise cette journée mondiale. L'occasion donc de vous donner la parole sur le thème de cette année, que ce soit lors de catastrophes naturelles, d'épidémies ou de conflits armés. La radio reste incontestablement un média clé. Elle permet de diffuser des messages de protection, de prévention, et malgré l'émergence des réseaux sociaux, eh bien la radio est le média capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde. Elle peut donc sauver des vies. Alors dites-nous, où que vous soyez à travers le monde, quel rôle la radio a-t-elle joué dans votre pays en situation d'urgence? Vous nous appelez évidemment ici au standard 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, vos témoignages nous intéressent également. 09 693 693 70. Vous nous appeler et nous vous écouterons dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et tout au long de la semaine, nous avons reçu des questions sur la Corée du Nord. Dimanche dernier, le régime de Pyongyang a-t-il lancé un satellite ou un missile longue portée? Après ce nouveau tir, faut-il avoir peur de la Corée du Nord? Nous allons prendre le temps durant les 20 prochaines minutes de répondre à toutes vos questions avec Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service international d'RFI. Vous avez longtemps été correspondant d'RFI en Chine. Vous connaissez bien la région. Le lancement de cet engin a été unanimement condamné par la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, ses alliés régionaux. On voit bien, Stéphane, que depuis dimanche, la situation est de plus en plus tendue dans cette région du monde, déjà entre les deux Corées.
Oui, d'autant que ce lancement arrive juste avant, enfin arrivé même la veille de ce qu'on appelle Chunji en chinois, donc la fête du nouvel an lunaire. Alors c'est fêté dans toute l'Asie du Nord-Est, c'est Solal en Corée, donc ça a surpris tout le monde, même si, en fait ils disent que ça a surpris, en fait tout le monde s'y attendait, puisque la Corée du Nord elle-même avait donné une fenêtre de tir entre le 7 et le 14 février, puis surtout on savait très bien, les satellites avaient vu ça, les yeux là du ciel, ils avaient vu que on remplissait déjà, il y avait eu des mouvements de matériel, des hommes qui s'approchaient du pas de tir de Sohae, et donc on voyait très bien qu'ils remplissaient les réservoirs de la fusée, donc on le savait, mais ça arrive surtout quelques jours après un essai nucléaire, enfin après l'essai nucléaire du début janvier,
un mois après,
donc c'est vraiment ça montre la détermination de la Corée du Nord à n'en faire qu'à sa tête, à ne pas respecter les résolutions de l'ONU. Donc effectivement, les voisins s'inquiètent, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et même la Chine a sermonné évidemment son allié nord-coréen.
On va longuement y revenir durant les 20 prochaines minutes. On commence avec Gilbert qui nous appelle du Cameroun. Il est à Douala. Bonjour Gilbert.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui. La Corée du Nord vient de procéder à un lancement de tir balistique selon les Occidentaux, tandis que Pyongyang prétend que ce lancement de missile a des visées purement scientifiques. Alors, d'où la question de savoir, quelle est la visée scientifique de Pyongyang derrière ce lancement de missile?
Alors, Stéphane Lagarde, officiellement, Pyongyang a procédé à un lancement de satellites. Ce serait donc la deuxième fois en 3 ans que la Corée du Nord réussit donc à mettre un satellite en orbite.
Voilà, alors c'est une longue histoire. Ça fait 4, effectivement. On les appelle les Kwangmyong-sun, je me trompe pas. Ça s'appelle étoile brillante, étoile lumineuse. Enfin, on peut traduire comme ça, ces satellites. Ils sont envoyés, c'est en l'honneur notamment de Kim Jong-il, de l'ancien leader. Et donc, oui, effectivement, c'est une longue histoire de développement qui a commencé en 98. Et pour la Corée du Nord, à chaque fois, on voit la présentatrice vedette de la télévision nord-coréenne apparaître en hanbok rose la dernière fois et dire voilà, c'est une réussite scientifique. On parle jamais en termes guerriers, on dit c'est une réussite scientifique, on a réussi à mettre en orbite un satellite d'observation, donc qui est censé faire des photos de la Terre. Le premier en 98 avait même diffusé des chants révolutionnaires. On sait que maintenant il avait jamais été mis en orbite, mais à l'époque il disait ça. Et donc c'est vraiment une visée scientifique. La Corée du Nord a défendu ce programme en disant que c'est un programme quinquennal de développement spatial. On a le droit au ciel, on a le droit à l'espace et on a le droit à la conquête spatiale. spatial comme tout le monde. Donc c'est ce que dit la Corée du Nord.
Oui, c'est ce que disait d'ailleurs la présentatrice de cette de la chaîne de télévision officielle. La Corée du Nord ne fait qu'exercer son droit légitime à une utilisation pacifique et indépendante de l'espace. Cet engin, sait-on s'il a véritablement gagné l'espace? Sait-on si l'information du satellite placé sur orbite a été vérifiée?
Alors oui, les Américains en tout cas ont dit qu'effectivement un engin avait gagné l'espace et avait été mis en orbite, donc ça a été confirmé par les États-Unis. Et puis Simon Rosé nous avait expliqué ici qu'effectivement il y avait des... Alors moi je suis pas scientifique, hein, comme Simon Rosé qui est
journaliste au service des sciences
de RFI, mais qui nous expliquait qu'on voyait un point qui tournait autour de la Terre et ça fait comme des... Donc on voit, il y a des signaux sonores ou je sais pas, en tout cas qui montrent que l'engin tourne autour de la Terre, oui effectivement.
En tout cas, rappelons-le, on l'a suffisamment dit sur notre antenne, les États-Unis et leurs alliés estiment là qu'il s'agissait d'un nouveau test de missiles balistiques à longue portée, ce qui, si l'information est exacte, constitue évidemment une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui, alors là, j'ai pas mes notes, mais c'est 1876, si je me trompe pas, une autre résolution de l'ONU. Effectivement, l'ONU considère que ce sont des essais balistiques parce qu'il considère d'abord que les satellites, on n'a pas trop d'éléments sur les satellites qui sont envoyés, à quoi ils servent. Ils trouvent que c'est un peu des gadgets. Donc, en fait, effectivement, pour l'ONU, en tout cas, c'est considéré comme des tirs de missiles déguisés. Pourquoi aussi? Parce que la fusée qui envoie ces satellites, elle s'appelle UNRWA aujourd'hui. Elle est UNRWA 3, je crois que c'est la troisième. Elle est constituée, si vous voulez, de plusieurs missiles. Enfin, comme souvent les fusées, mais là, il y a un missile Rodong, donc au départ, c'est un peu des poupées gigognes. Après, un missile Taepodong, et enfin le troisième étage, ça serait un peu le modèle de la longue marche, de la fusée longue marche chinoise. Donc voilà, ça pourrait tout à fait servir demain à un transport de missiles balistiques.
On repasse au standard
d'ogives.
On repasse au standard avec Idriss qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à mon cher Stéphane Lagarde et Jérôme Bastien, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci pour eux. On vous écoute, Idriss.
Ok, j'ai des questions également concernant ces tirs de fusée effectués par la Corée du Nord la semaine dernière. Tout d'abord, ma première question est de savoir pourquoi les Chinois ont rejoint la communauté internationale dans leur condamnation vis-à-vis de son allié nord-coréen, alors que ce lancement était considéré comme pacifique.
Alors la Chine, principal allié de Pyongyang, la Chine s'est contentée d'exprimer ses regrets. Il n'y a pas eu véritablement de condamnation, Stéphane Lagarde.
Exactement, Idriss. C'est très important, mais il y a une différence chez les Chinois. Les Chinois condamnent fermement les essais nucléaires. Hein. Les Chinois ont lancé les pourparlers à 6 pour stopper la prolifération dans la péninsule coréenne et en tout cas arrêter ces essais nucléaires. Donc ils sont très fâchés, les Chinois, lorsqu'il y a un essai nucléaire nord-coréen. Il y a des sanctions qui sont votées ou en tout cas ils s'abstiennent, mais en tout cas la plupart du temps et à chaque fois ils ont voté des sanctions, hein, Pékin a voté des sanctions contre la Corée du Nord, donc ils sont très fâchés. Pourquoi? Parce que c'est des essais souterrains d'abord qui sont dangereux pour eux, ça fait trembler, on l'a déjà dit ici, mais enfin ça fait trembler la terre jusque dans la région autonome de Yanbian, donc en Chine où les élèves sortent des écoles à chaque fois, enfin bref, ils sont vraiment pas contents. En revanche, pour ce qui est du programme spatial comme le définit la Corée du Nord pour les lancer en tout cas de ses fusées et de ses satellites, là la Chine pense que c'est un droit effectivement pour la Corée du Nord, un droit à l'espace, un droit au ciel, à la conquête de l'espace, et donc elle ne condamne pas, elle regrette simplement. C'est très important les termes en diplomatie. Et donc la Chine a regretté simplement et ne propose pas de sanctions. D'ailleurs, elle fait tout ce qu'elle peut pour freiner les sanctions. Ça, c'est une autre histoire parce qu'elle a peur que des sanctions trop fortes entraînent l'effondrement du régime de l'allié à côté. Elle veut surtout pas d'une Corée sous dominance américaine.
Oui, parce que ce que craint Pékin, c'est l'effondrement de la Corée du Nord, la réunification des deux Corées qui serait à ce moment-là alignée sur les États-Unis. Et effectivement, c'est le scénario intolérable, insupportable pour Pékin.
Et de leur côté, les Américains, évidemment, on va dire, hein, les experts peut-être des fois en rajoutent un peu sur la menace, même si il y a quand même, là on parle d'un essai nucléaire plus d'un lancement, hein, c'est pas un lancement réussi en plus, donc il faut pas nuancer cette menace, mais enfin, des fois, les Américains, les chercheurs en rajoutent un petit peu parce qu'eux, ils ont tout intérêt à vendre des armes aux Coréens du Sud et à garder leurs soldats dans la région.
C'était important de le rappeler. Idriss, vous avez une autre question?
Oui, exactement. Juan, j'aimerais savoir pourquoi la Corée du Nord a lancé ses fusées en direction de la mer Jaune, alors qu'ils ont l'habitude de lancer ses fusées en direction de la mer du Japon. Est-ce que c'est par crainte de voir ces missiles d'être abattus par le système antimissile déployé par l'autorité japonaise à l'ouest de la péninsule japonaise?
Ah, alors Stéphane Lagarde, vous avez un élément de réponse. Pourquoi ce missile a-t-il été lancé en direction de la mer Jaune?
Parce que Idriss a raison, effectivement, ils n'ont pas envie d'avoir une réaction du Japon. Alors il faut bien noter qu'il y a deux lanceurs, il y a deux sites de lancement de missiles en Corée du Nord. Il y a Tong-e qui se trouve sur à l'est de la Corée du Nord, et puis Sohae, c'est celui-là qui a été utilisé la dernière fois, qui se trouve à l'ouest. Jusqu'en 2012, ils utilisaient donc le site de l'est, et ça avait beaucoup fâché Idriss, énormément fâché le Japon. En 1998, je vous avais parlé de ce premier Kwangmyong-sun, donc ce premier étoile brillante, ce premier satellite qui n'avait pas été mis en orbite, mais à l'époque on avait dit qu'il avait fait 100 révolutions, qu'il avait diffusé les chants de Kim Il-sung dans l'espace. Et bien en fait ce satellite, 15 ans après, on s'est aperçu qu'il avait été détruit, mais peu importe, la fusée elle était bien en août 98, donc elle est passée au-dessus de la tête des Japonais. Alors vous imaginez les dirigeants à Tokyo, quand ils voient ça, ils se disent, mais mince, si la fusée, excusez-moi cette expression un peu triviale, mais se casse la gueule sur une ville au Japon, c'est une catastrophe. Donc ils ont mis en place, à partir de 2003, tout un système de protection avec les Américains, évidemment, un système de protection pour détruire tout engin non identifié. Ils avaient prévenu, si ça passe au-dessus de nous, cette fois, on tire.
C'est un bouclier antimissile.
Un bouclier antimissile. Et puis, ils ont mis aussi en place tout un système de satellites d'espionnage très précis, qui s'appelle l'IGS, les Japonais, depuis 2003. Pour contrôler tout ce qui se passe là-bas en Corée du Nord. Et puis donc voilà, donc ils ont tiré depuis Sohae vers la mer Jaune, plus dans la mer du Japon, les Coréens appellent ça la mer de l'Est, mais dans la direction de la mer Jaune. Et la Corée du Sud effectivement n'a pas été survolée non plus, parce qu'en Corée du Sud pareil, la Corée du Nord craint que sinon ils vont se, d'ailleurs on en reparlera sûrement dans cette émission, mais craint qu'elle déploie aussi un dispositif antimissile. Et les Coréens du Sud avaient prévenu aussi, si ça survole au-dessus de nos têtes, eh ben on sera très fâché. La Corée du Sud qui a quand même déployé, je reprends mes notes, 15 navires dont un chasseur de mines, 6 avions hélicoptères pour retrouver les débris. Un chasseur de mines, c'est qui détecte à plus de 80 mètres sous l'eau des pièces de métal. Ils ont retrouvé un débris le deuxième étage donc de la fusée, enfin la partie exactement qui lie le premier et le deuxième étage de la fusée, donc de la fusée qui a été lancée, à 120 km au sud de l'île d'Eochong, donc c'est une île sud-coréenne, donc c'est tombé en mer Jaune. Ils ont retrouvé aussi hier, je crois, une tuyère de combustion du premier étage de la fusée. En total, cette fusée, ce premier étage s'est décomposé en 270 morceaux qui sont retombés dans la mer, mais qui ne sont pas tombés sur le sol sud-coréen. C'est très important, donc ils font quand même attention, là, les scientifiques, les ingénieurs de l'espace en Corée du Nord, à ne plus froisser trop, enfin, pas en tout cas, pas survoler les territoires voisins.
Et ça n'a pas échappé à notre auditeur Idriss qui écoute attentivement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est 8h22. Ce sont vos questions, on continue d'y répondre avec Stéphane Lagarde. Arfang, bonjour.
Bonjour Juan Gonaï. Bonjour à Stéphane.
Vous nous appelez
Bonjour, Fang.
Vous nous appelez de Richard Toll au Sénégal, et vous avez également des questions sur la Corée du Nord.
Effectivement. Que sait-on de l'armement nucléaire de la Corée du Nord?
Ah, bonne question. Quelle est la capacité réelle de nuisance nucléaire de la Corée du Nord?
Alors, je vous l'ai dit, certains l'exagèrent, certains la minimisent. C'est très difficile à savoir, Arfang. C'est difficile parce qu'il faut regarder les choses et on les voit pas. C'est caché par définition. Il y a quand même des choses qui apparaissent sur la place Kim Il-sung tous les ans lors des parades militaires à Pyongyang. Donc,
la plus grande place
au monde,
de Pyongyang.
Ouais, enfin, une des plus grandes places au monde avec celle de Pékin, Tiananmen. Et donc là, il y a ces grands défilés militaires et le régime n'hésite pas à sortir des gros missiles. On se rappelle notamment des Musudan, vous les connaissez peut-être, Arfang, ces gros missiles gris qu'on voit passer à la télévision avec un nez rouge. Eh ben, ce sont des missiles courte portée façon de parler, hein. Je crois qu'ils font quand même 2000 km.
Ah oui.
Mais, voilà. Donc, il y a ces missiles-là, il y en a d'autres, il y a les Taepodong. Donc ça, c'est les lanceurs. C'est important dans un arsenal. Il faut faire la distinction entre, l'arme, on va le voir, et puis les lanceurs. Alors, les lanceurs, là, je reprends mes notes aussi. On a aussi les Taepodong 1 et 2, hein. Ce sont des missiles à plusieurs étages qui peuvent être des vecteurs de l'arme nucléaire. Donc, des missiles balistiques, d'une portée de 2000 à 6700 km. 6700 km, c'est très important. Pourquoi ? Ça fait très peur aux États-Unis.
Ah oui, ça touche la côte ouest des États-Unis.
Et puis aujourd'hui, on a la fusée UNRWA, donc ces fusées UNRWA, donc qui sont des lanceurs légers construits sur le modèle, je vous l'ai dit, un peu des poupées gigognes avec plusieurs missiles. Et puis le dernier étage, c'est un modèle de la fusée Longue Marche chinoise. Et on ne sait pas donc si ces fusées sont capables de transporter des ogives nucléaires, mais beaucoup de scientifiques, notamment en Corée du Sud, s'interrogent et regardent de près. C'est très intéressant de savoir quel poids, on le sait pas, hein, pèsent ces fusées, surtout quelle charge utile ils peuvent transporter. Là, j'ai noté la réaction d'un chercheur très spécialisé en Corée du Sud qui disait: nous devons maintenant en savoir plus sur la portée de la fusée, donc combien de kilomètres, bien sûr, ils sont en train d'étudier ça en récupérant peut-être les débris, ils regardent en tout cas, et le poids du satellite, donc affirmait ce chercheur, lors du lancement en 2012, donc le précédent, le satellite pesait uniquement 100 kilogrammes, hein, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'était la fusée UNRWA 2. Alors si aujourd'hui la charge utile, donc ce satellite peut peser jusqu'à 400 et 500 kilos, ça serait un signe, parce que si on peut transporter très lourd, ça veut dire qu'on peut aller très loin. Mmh. Et dans ce cas-là, ça serait capable, cette fusée, ce missile balistique, d'atteindre, encore une fois, la côte américaine, ce qui fait très peur aux Américains.
En deux mots, on a parlé des lanceurs, il y a évidemment la bombe en tant que telle.
Oui, alors là, il y a plusieurs scénarios encore. Je vous ai dit, les Américains, certains exagèrent. John Hopkins, notamment l'université à Washington, qui a beaucoup d'observateurs qui passent leur temps à regarder la Corée du Nord, parle de 100 armes atomiques dans les 5 ans. C'est un scénario très exagéré, très catastrophe. Certains autres parlent de 50 armes en 2020. Le dernier essai, il parlait de bombes à hydrogène. La plupart des scientifiques extérieurs à la Corée du Nord pensent que c'est une bombe à renforcer, mais c'est pas une bombe à hydrogène. Mais enfin, ils sont sur le chemin. Et puis, dans les hypothèses les plus probables, on parle d'une quinzaine d'armes nucléaires. Comment fait-on pour savoir, parce que c'est la question quand même de Richard au départ, comment fait-on pour savoir? Simplement, on fait des hypothèses sur la capacité de production de d'uranium-235 et de plutonium-239. Richard, c'est un cocktail, triste cocktail, mais qui permet de faire la bombe atomique. Donc on essaye de savoir quelle quantité peuvent produire de ce cocktail les Nord-Coréens pour savoir s'ils peuvent fabriquer des bombes et combien.
Et ce qui est sûr, c'est que Kim Jong-un ne veut surtout pas renoncer au programme nucléaire nord-coréen. On l'a entendu récemment, il disait en substance, regardez ce qui s'est passé pour Muammar Kadhafi, il a accepté de renoncer au nucléaire et ensuite il a été renversé et tué par une coalition internationale et il ne veut surtout pas vivre la même chose que l'ancien dirigeant libyen. Nous repassons au standard rapidement avec Eric. Henri, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville.
Exactement, c'est ça.
On vous écoute.
Allô?
Alors, on a un petit problème avec Henri, on va essayer de vous retrouver dans un instant. Peut-être Kaba, qui est avec nous à Conakry. Bonjour, Kaba.
Bonjour, Juan, et bonjour à tous vos spécialistes ainsi qu'aux auditeurs.
Merci, on vous écoute.
Les États-Unis et la Corée du Sud veulent déployer un système de défense antimissile américain dans la péninsule coréenne. Alors, j'aimerais savoir quel impact cela peut avoir sur le programme nucléaire nord-coréen et quelles conséquences pour la région.
Alors, Stéphane Lagarde, d'ailleurs, les discussions, on l'a appris ce matin, entre la Corée du Sud, et Washington, vont commencer dès la semaine prochaine pour mettre en place ce fameux bouclier antimissile on nous le présente en tout cas comme étant un bouclier antimissile parmi les plus sophistiqués, les plus performants du monde. Quel impact cela aura exactement sur la Corée du Nord?
Oui, d'après les essais de Lockheed Martin, les Américains qui fabriquent ce système, il y a 100% de réussite. Enfin, bon, en tout cas, il faut d'abord rappeler ce que c'est. Ça s'appelle le THAAD, le Terminal High Altitude Area Defense. C'est comme ça que l'appelle l'Américain. C'est des missiles antimissiles qui sont grimpés sur des camions, sur des bateaux et qui vont jusqu'à 150 km en hauteur, 200 km d'une portée de 200 km. Et ces missiles, en fait, n'ont pas de charge explosive. Ils vont juste faire un impact sur la tête.
Ils vont intercepter le missile ennemi et le détruire.
Voilà. Alors, quelles conséquences pour la région? Pas mal, parce que ça fâche énormément, encore une fois, la Chine et la Russie. Alors, la Corée du Nord, évidemment, mais enfin surtout la Chine et la Russie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent, ça y est, on rentre dans un contexte de guerre froide. Vous êtes en train de faire du containment, vous êtes en train de nous... Parce que c'est évidemment, je viens de vous le dire, 150 km d'altitude et 200 de portée, ils bloquent aussi des missiles chinois et russes. Donc, ça fait que ça déstabilise pour les Russes et les Chinois toute la stabilité de la péninsule en mettant en place ce système. Évidemment, les Américains ont profité de la crise tout de suite pour vendre ce système. Ça coûte très cher. C'est quand même un système qui, sans la maintenance, sans la logistique, sans l'installation, coûte 885 millions de dollars.
Ah oui, effectivement. Donc, voilà. Un système qui est déjà effectif aux États-Unis, puisqu'il y a 5 batteries qui sont déjà opérationnelles. Et puis, je crois que ce même système a été déployé au Qatar et en Arabie Saoudite. En tout cas, on voit bien que la Chine se dit profondément préoccupée par l'arrivée de ce bouclier antimissile. On en saura plus, évidemment, dans le courant de la semaine prochaine. Il nous reste une petite minute 30. Je ne sais pas si on a retrouvé Henri.
Oui, je suis là.
Alors, on vous écoute rapidement. Votre question.
Et j'aimerais savoir où trouve-t-elle les moyens financiers pour financer son programme nucléaire et spécial?
Alors, le réseau est très mauvais. Où trouve-t-elle les moyens financiers pour développer son programme spatial et militaire? C'est une bonne question. La Corée du Nord est un pays pauvre.
Oui, alors c'est très important. Plusieurs réponses, mais on va aller très vite. La Corée du Nord, d'abord, se dit autonome en matière de technologie. Elle dit qu'elle fabrique tout elle-même. C'est pas vrai. Au début, elle a été aidée pour les missiles, les premiers missiles Rodong 1, elle a été aidée par la Russie. Et puis, elle a aussi mis simplement tout l'argent, le budget dans l'armée. C'est ce qu'on appelait la théorie du Songun sous Kim Jong-il. Donc cette théorie, l'armée d'abord. Donc il y a un gros budget qui est mis moins dans le développement du civil, mais plutôt dans l'armée. Donc c'est pour ça aussi, parce qu'un pays pauvre met tout dans l'armée. Aujourd'hui c'est différent. Le nouveau leader Kim Jong-un, lui, met un peu moins d'argent dans l'armée. Il n'est plus dans la théorie du Songun. Il veut développer. On va voir en mai prochain. Notamment, il met en avant le parti. Il y aura le premier congrès du Parti des travailleurs en 35 ans. Mais il y a toujours quand même, vous l'avez dit, hein, c'est une priorité pour eux, ce développement du nucléaire.